des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Albert Camus incarne la figure du juste et de l'homme révolté. Une révolte contre ce qui porte atteinte à la dignité humaine et contre l'absurde. C'est ce que retiennent souvent ses lecteurs 50 ans après sa mort brutale en 1960 dans un accident de voiture à l'âge de 47 ans. L'écrivain nobélisé en 1957 a rejeté les totalitarismes du XXe siècle. Mais il n'a pas échappé aux guerres de son temps, la Seconde Guerre mondiale et celle de l'Algérie, où il est né et a grandi. Ses pièces de théâtre, ses romans, ses essais, ses articles ont obtenu une audience universelle malgré les vives polémiques que ses écrits ou ses positions ont soulevées dans la France des années 50. Comment l'œuvre de l'écrivain, du dramaturge, du penseur qu'il a été résiste au temps? Revenons sur le parcours emblématique de cet intellectuel engagé, de l'auteur de L'étranger et de La peste, mais aussi de L'homme révolté et du premier homme et de bien d'autres, avec Jean-Yves Guérin qui a dirigé le dictionnaire Albert Camus, publié chez Robert Laffont dans la collection Bouquins. 65 personnes ont collaboré à cette vaste quête pour replacer Camus dans son temps et dans le nôtre, pour mieux comprendre son parcours courageux et visionnaire, au final une image éloignée des attaques qu'il a subies de son vivant. Jean-Yves Guérin, bonjour.
Bonjour.
Pour commencer peut-être cet entretien, quel fut le berceau de Camus? La Méditerranée, l'Algérie ou la France? En termes d'identité, Camus, c'est l'exemple même de la presque banale complexité de notre histoire. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait répondre à ça?
Les faits,
oui.
Camus est né en Algérie, dans une petite bourgade qui a un nom historique, Mondovi, qu'il appellera Maringo parfois. Cette petite bourgade, les parents l'ont quitté très vite et il a passé son enfance dans un quartier pauvre d'Alger, Belcourt. Donc il se sent algérien. Parfois, il lui arrive de dire qu'il est africain. Il l'a surtout dit dans les années 30. Il a le sentiment que l'Algérie fait partie d'un monde plus vaste où figure aussi l'Espagne, l'Italie, la Grèce, un monde méditerranéen qui se caractérise par des paysages, par un climat, mais aussi par une culture commune, des mythes peut-être. L'Algérie était territoire français, il y avait des départements français. La France était loin pour le jeune Camus, comme il le dit admirablement dans Le premier homme. Un pays de neige, c'est assez exotique pour un petit garçon d'Alger. Il faut attendre 1940 pour qu'il se sente français, c'est ce qu'il a dit.
Il va venir en France aussi?
C'est parce qu'il y a eu la guerre. La défaite lui montre qu'il est aussi français. C'est la France humiliée, défaite, qui se fait reconnaître à ses yeux. Par la suite, il continue à se sentir algérien, mais il se sent aussi français. Et de plus en plus, ce qui a été beaucoup moins vu, il se sent européen. L'Europe apparaît comme horizon et comme préoccupation pour Camus dans un texte où on ne l'attendrait pas, a priori. C'est « Lettre à un ami allemand ». C'est son grand texte résistant qui a été publié pour l'essentiel dans la clandestinité. Et il y affirme cette chose très singulière, très originale à l'époque, c'est que la résistance est un mouvement européen qui a pour objectif de construire une Europe démocratique. Et après 1944, dans ses articles de combat principalement, mais on en trouve des traces ultérieurement, il y a une volonté de contribuer à la construction européenne. On peut dire que Camus a été, parmi les écrivains français, alors il n'est pas le seul, il y a Mauriac, par exemple, Emmanuel Mounier, mais il a été un pionnier de l'idée européenne.
Et presque visionnaire, parce que dans cet article, il y a ces quelques formules de Camus sur l'Europe, et puis sa vision aussi des États et des conflits européens. Ça n'a pas pris une ride quand on en lit que la notice, là, mais c'est le point à travers sa vision de l'Europe, à travers ses carnets, lettres à un ami allemand dont vous parliez, y compris dans L'Homme révolté, et c'est assez touchant de voir ce Camus visionnaire. Moi, je n'avais pas pensé Camus comme ça.
Et son Europe, c'est une Europe culturelle, une Europe sociale. Ce n'est pas fondamentalement une Europe des yaourts et des moissonneuses-batteuses.
Mais pourtant, il y pensait.
Il reconnaît que l'économie aura joué un rôle, mais elle n'est pas première. Hein. Et surtout, et ce qui est très remarquable pour l'époque, c'est que c'est une Europe large. Ce n'est pas la petite Europe du traité de Rome. C'est une Europe qui intègre l'Espagne, la Grèce, et l'Europe de l'Est, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Roumanie, qui peut intégrer même une Russie devenue démocratique. Et c'est une Europe qui n'est pas enfermée sur elle-même et qui est largement ouverte sur le sud de la Méditerranée, sur l'Amérique latine. Donc là, c'est sans doute un des points où on peut dire que Camus, dès 1945, dès les années 1950, est un visionnaire. L'histoire a réalisé récemment ce qu'il souhaitait. L'idée que l'Espagne, pays qui lui est extrêmement cher, que la Pologne et la Hongrie fasse partie de l'Europe au même titre que la France et l'Italie ou l'Allemagne, c'est une idée qui l'aurait bouleversée.
Et dans cet article, vous précisez, puisque c'est vous qui l'avez écrit, donc, que Camus entrevoyait la possibilité de partenariat avec la rive sud de la Méditerranée, avec l'Europe. Tout cela est en débat aujourd'hui, et c'est vrai que le côté visionnaire de sa pensée s'illustre vraiment dans cette éclairante notice. C'est nouveau cet éclairage sur Camus ou c'est connu depuis longtemps ?
Non, c'est un point qui a été assez peu vu. On insiste beaucoup sur son ancrage algérien, ce qui est bien réel, hein, sur son ancrage ou ses sympathies pour la culture méditerranéenne, mais on oublie la longue liste de textes où il parle de la construction de l'Europe. C'est non seulement l'Europe en tant que fait de culture, mais en tant qu'institution transnationale. Au fond, il est vers 1948-1949, il a eu des sympathies pour un mouvement bien oublié, le mouvement des citoyens du monde. Et il a compris que c'était sans doute trop tôt, que c'était une utopie difficilement réalisable, un monde sans frontières, mais que l'Europe démocratique pourrait être le cadre où se réaliserait cette utopie.
Cette Europe des contrats. Et puis aussi cette Europe en renouvellement, l'Europe, conclut-il, sera encore à faire. Elle est toujours à faire, cette démarche qu'on a toujours de remise en question et de cette construction européenne qui est en mouvement. Et puis dans les carnets, alors il y a aussi quelque chose de très intéressant à propos dans l'être à un ami allemand que vous évoquiez, où il considère que la tradition chrétienne n'est qu'une de celles qui ont fait l'Europe. Ça aussi, c'est très nouveau. Enfin, évidemment, on dit qu'il a incarné l'homme moderne de la deuxième moitié du XXe siècle, mais je dirais que aussi de la charnière et de notre début de XXIe siècle européen. Ce sont des questions en débat aujourd'hui. Même le rationalisme laïque n'est pas pour autant privilégié. Il en est sorti le meilleur et le pire. Et alors là, vous citez, la terre de l'humanisme est devenue cette Europe, terre inhumaine. La philosophie des Lumières aboutit à l'Europe du couvre-feu. Le paradoxe de l'Europe est qu'elle a été un foyer de civilisation et un creuset d'idéologie meurtrière, et pour Camus, c'est sans doute dans le dialogue des cultures que se trouve son identité. Une de ses multiples entrées de ce dictionnaire, peut-être pour parler de sa famille, de son milieu social, vous parliez des faits tout à l'heure, et peut-être que pour résumer, je dirais que pour Camus, il y a une mère pour famille. Alors, comment le dictionnaire que vous avez coordonné, là, avec ses 65 collaborateurs, a-t-il rendu compte du milieu social et de la situation de famille particulière de Camus, dont on sait qu'il a perdu son père dans l'année qui a suivi sa propre naissance, en 1913, et son père est mort en 14, à la guerre, à la Première Guerre mondiale. Alors, il y a un article « père », d'ailleurs, dans ce dictionnaire, mais il n'y en a pas « mère ». Pour l'entreprise, ce dictionnaire, cette entreprise éditoriale, comment vous avez répondu à ça ?
Un dictionnaire, c'est une entreprise collective. Cela commence par la confection de deux listes. Une liste des auteurs potentiels et une liste des entrées. Et la liste des entrées, elle n'est pas stable. Elle s'enrichit. On en est à 539.
539 entrées pour ce dictionnaire.
Longtemps, il y en a eu 450, 470. Puis avec le temps, il y a des entrées qui se divisent par sissiparité. Il y en a d'autres qui apparaissent parce que il est apparu, par exemple, qu'il y avait des faits nouveaux. Évidemment, en 2006 puis 2008, l'apparition de deux volumes, puis deux volumes encore, des nouvelles œuvres complètes, faisait apparaître des nouveaux textes. Donc, ça justifiait des nouvelles entrées. Puis un autre cas, par exemple, en 2007, je crois, apparaissent des lettres de Claudel à Jean-Louis Barrault. Dans ces lettres, je découvre que Camus avait vu Le Soleil de Satin. D'où une entrée Claudel.
Une entrée Claudel
qui n'était pas prévue au départ.
Et une entrée épistolaire aussi.
Absolument. Voilà. Vous avez comme ça des entrées qui apparaissent parce qu'il y a une nécessité. Alors, l'autre intérêt du dictionnaire, c'est qu'on peut évidemment examiner un objet, une œuvre, sous plusieurs facettes et avec plusieurs auteurs. Pour parler des origines de Camus, il y a une entrée père, il y a une entrée pauvreté, il y a une entrée Bellecour, il y a une entrée Alger. Et ce ne sont pas les mêmes auteurs qui ont rédigé ces entrées. Ça, c'est l'apport unique du dictionnaire, c'est la pluralisation des voix, des discours et finalement des interprétations.
Vous évoquiez Claudel, mais il y a effectivement tous les écrivains et les philosophes qu'il a rencontrés qui ont une entrée dans ce dictionnaire. Ou est-ce que le dictionnaire Camus est-il novateur dans ses liens ?
Là aussi, la formule du dictionnaire permet énormément de souplesse. C'est-à-dire qu'on peut avoir des entrées courtes, disons 2000-2500 signes, et des entrées plus longues, 10 000, 12 000 signes. L'entrée la plus longue, c'est « L'homme révolté » a fait plus de 29 000 signes. Mais c'est un cas un peu particulier. Et pour ce qui est des écrivains, il y a toutes sortes de possibilités. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a l'entrée Max Jacob, très inattendue. Il se trouve que le jeune Camus a eu une relation épistolaire avec Max Jacob. Chose très peu connue, qui n'apparaît pas dans les livres, mais que les spécialistes avaient mesuré, puisque c'est dans la correspondance Max Jacob Grenier. Donc, il y a une entrée Max Jacob qui montre qu'il y a eu des relations au début des années 30 et qu'il y en a eu encore dans les années 1940 et que Max Jacob a lu L'Étranger. Il y a des notices évidemment beaucoup plus lourdes, c'est celle Sartre, Mauriac, Malraux, les grands écrivains avec lesquels Camus a eu des relations amicale, inamicale, de concurrence, de fraternité, bref, toutes choses possibles. Donc là, il y a des notices un peu lourdes sur des points finalement pas très connus. Les relations Camus-Malraux, on manque d'études. Voilà. Et puis alors, vous avez tous les cas un peu intermédiaires. Il y a des entrées, Proust, Stendhal, Pascal. Et donc là, ce sont des points relativement peu étudiés, ou quand ils l'ont été, dans des articles enfouis dans des revues savantes. Donc là, pour le grand public,
il y a
le moyen d'apprécier, de voir le dialogue que Camus a eu avec les écrivains du passé et du présent, les penseurs classiques et contemporains.
Sur le milieu de Camus, on parlait de la pauvreté, il y a une entrée à pauvreté, effectivement. Peut-être que c'est là qu'on peut parler de misère, les misères en Kabylie.
Oui,
parce que c'est un article fondateur dans son parcours d'écrivain. Il y a un long article très précieux, je pense, pour les spécialistes et qui rétablit bien les choses pour le non-spécialiste sur son rapport justement à la pauvreté. Et est-ce qu'il a vu à cette époque-là, et je crois que c'est Guy Pervidier qui a signé la notice et qui dit combien Camus a été aveugle sur le plan politique, mais pas sur le plan social. Et j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de cet article et de l'expérience journalistique, peut-être aussi de Camus, c'est peut-être l'occasion.
Alors, il y a d'abord ce point, Camus est quelqu'un qui fait très attention à l'utilisation des mots. Vous avez utilisé, et il a utilisé, deux mots différents, pauvreté, misère. Et la distinction entre pauvreté et misère, elle a été faite par Peggy. Je ne suis pas sûr que Camus connaissait bien Peggy. En tout cas, son professeur de philosophie, Jean Grenier, lui connaissait Peggy et le citait. Donc c'est sans doute de façon indirecte qu'il a eu connaissance de cette distinction fondatrice. Camus a eu personnellement une expérience de la pauvreté. C'est-à-dire que dans son milieu, on était démunis, le logement était un taudis où trois générations étaient entassées, où il n'y avait pas de confort. Mais jamais Camus ne misérabilise son enfance. Au contraire, il y avait cette pauvreté péguiste dans sa famille. En revanche, quand en 1939, il se rend en Kabylie, province montagneuse et déshéritée de l'Algérie coloniale, il est littéralement effaré par la misère qu'il voit. Une population affamée, en haillons, ravagée par la pénurie, le sous-développement et complètement abandonné par le pouvoir colonial. Et là, il y a un texte fondamental pour comprendre son rapport à l'Algérie coloniale. Il donne l'envers du décor. C'est-à-dire qu'au même moment, pensons aux années 1930, le discours officiel, à la fois légitime et glorifie l'œuvre colonisatrice de la France. On nous parle des bienfaits apportés aux populations colonisées. Et Camus découvre, parce que littéralement découvre, il n'était jamais allé en Kabylie, que c'est pas du tout ça. Au contraire, c'est une misère terrible. Et ce texte va avoir beaucoup d'effets et va avoir des lecteurs à la fois chez l'aile sociale des Français d'Algérie et chez les lecteurs musulmans. Car ce long texte apparu dans Alger Républicain, un petit journal algérois qui avait un lectorat français et un lectorat musulman. Disons, une élite alphabétisée lisait ce journal. Et ces articles sont redécouverts aujourd'hui et le témoignage de Camus apparaît pour ce qu'il est, un témoignage essentiel.
Pour l'histoire, évidemment. Marquons une courte pause et retrouvons-nous dans quelques instants. L'auteur de la notice souligne combien Camus n'a pas vu la question politique, les différents statuts des habitants d'Algérie dans cette question sociale. La notice de Guy Pervillet se termine ainsi. L'écrivain algérois nous donne ici l'impression d'un colonisateur de bonne volonté qui n'a pas encore eu le temps de réfléchir sérieusement aux problèmes politiques algériens. Et certains Algériens d'aujourd'hui qui aiment Camus ont compris cette vision parcellaire.
Misère de la Kabylie, c'est un reportage. C'est rien d'autre. Et il faut attendre la conclusion, brève, pour que Camus prenne de la distance avec les faits. En 1939, Camus n'a pas encore fixé sa déontologie, mais pour l'essentiel, elle est déjà là. C'est-à-dire que un reportage, c'est un reportage. Un éditorial, c'est un éditorial. Il a écrit un reportage. Ça, je crois que c'est la première explication. La deuxième explication, liée à la première, c'est que s'il y a des aspects politiques, on les trouve dans d'autres articles de Camus. C'est-à-dire que Camus, dans les années 30, je ne le dirai pas pour les années 1950, dans les années 1930, il connaît fort bien le paysage politique. Il a passé une partie de son activité de militant communiste à essayer de recruter des Arabes pour le parti. Ce qui l'a amené à fréquenter l'élite militante, des hommes aussi différents et que l'histoire va encore plus séparer, que Messali Hadj
et Ferhat
Abbas, il les connaissait.
Oui, oui.
Il connaissait les programmes des organisations. Oui. Simplement, il n'en parle pas. Je pense que pour une raison, c'est que la Kabylie, c'est une province très particulière par l'histoire, par la culture, par la langue, et que les militants qu'il avait rencontrés, c'était pour l'essentiel des militants algérois. Camus, journaliste, ne romance pas la réalité. Il n'a pas vu de militants en Kabylie. La Kabylie était trop misérable pour avoir une élite militante. Les choses changeront, évidemment, dans les années 1950. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reprocher à Camus de ne pas avoir vu des militants lorsqu'il n'y en avait pas. Alors, sur l'analyse, ce que l'on peut dire, c'est que le niveau social et le niveau politique sont dissociés ici. Mais encore, c'est une affaire de stratégie d'argumentation. Il y a des contraintes des genres journalistiques.
Dans le dictionnaire Albert Camus que vous avez dirigé, Jean-Yves Guérin, il y a de nombreuses entrées en rapport avec l'expérience journalistique de Camus. On trouve des entrées concernant les journaux et les revues dans lesquelles il a publié. Il y a même une notice au mot « presse ». Et un petit peu avant 1939, mais toujours dans les années 30, il est entré au Parti communiste en 1935 et il est sorti en 1937. C'est là qu'il a découvert beaucoup de choses. La possibilité de faire du théâtre, de s'occuper d'une maison de la culture aussi, ça a dû...
Alors c'est plus... il y a beaucoup de choses hein, dans
c'est,
son expérience
c'est là,
militante.
C'est le niveau du parcours. Ça a été sûrement très formateur et ça lui a ouvert de grandes fenêtres sur le monde.
Oui. Ça a été une école difficile pour lui. Dans son milieu, on ne militait pas, comme toujours, quand on est trop pauvre. Ses maîtres n'étaient pas des grands syndicalistes. Donc, Il faut attendre l'âge de 22 ans pour que, étudiant, il se mette à militer au Parti communiste pour des raisons d'origine sociale et par souci de la justice. Alors, cette expérience a été importante pour lui, même s'il n'en a à peu près pas parlé. Et sans doute en aurait-il parlé dans la suite du premier homme. Mais on ne le saura jamais.
On ne le saura jamais puisque on ne le connaît pas.
Parce que le livre est loin d'être achevé. Alors, ça a été une expérience d'abord de la fraternité. S'il y a une chose
de la solidarité.
Dont on est sûr, c'est qu'il a apprécié la fraternité militante, les rencontres, la convivialité. Et par ailleurs, puisqu'il était étudiant, donc intellectuel, le parti lui a confié des tâches culturelles, c'est tout à fait dans l'esprit du Front populaire, et cela lui a permis de faire ses débuts au théâtre, puisqu'il a animé une troupe qui se situait dans la mouvance du Parti communiste, le Théâtre du Travail, troupe qui, lorsqu'il sort du parti, et avec lui tous les amis qu'il avait amenés, sa petite bande de copains et de copines, eh bien la troupe est rebaptisée et devient Théâtre de l'Équipe. Expérience tout à fait importante, parce que c'est l'amorce de cette grande passion pour le théâtre. Et quand on voit ce qu'il a joué, on sait très bien quelle pièce il a joué et quand. On est frappé du fait que d'une part il y a une évolution, mais que d'autre part, le point commun entre les deux troupes, c'est un idéal de théâtre populaire. Et la deuxième troupe, plus que la première, préfigure le TNP de Jean Villard. Disons que la première troupe serait plutôt sur une ligne Piscator-Meyerhold et la deuxième sur une ligne Jacques Copeau-Jean Villard.
Cette expérience de théâtre amateur assez poussée a nourri pour le restant de sa vie sa passion pour le théâtre, un milieu pour lui chaleureux comparé au milieu intellectuel parisien dont il a eu à souffrir ultérieurement. Avec le théâtre, il a fait l'expérience du collectif auquel il accordait une grande importance.
Alors, oui, indiscutablement. Donc, le théâtre, il l'a dit une fois, c'est son couvent. Donc, c'est un lieu de travail collectif, d'épanouissement personnel. Il s'y est senti extrêmement heureux. Il a été auteur, acteur, metteur en scène, souffleur. Il a tout fait dans une troupe amateur qu'on devine en marche vers une certaine professionnalisation. Mais bon, l'histoire a mis fin à l'expérience en 1939, il en a gardé la nostalgie. Et quand cela lui a été possible, à l'occasion de la création de ses pièces, il retournait sur les plateaux. Il était attentif, pas du tout directif, c'était pas Samuel Beckett. Il n'embêtait pas les metteurs en scène et les acteurs. Mais quand il l'a pu, il a été son propre metteur en scène.
Et puis il y a ces adaptations très, très fameuses. Absolument. Il y a une entrée de Dostoïevski d'ailleurs dans le dictionnaire Albert Camus. Est-ce que le théâtre de Camus a vieilli ?
Alors, bon, oui et non. C'est un théâtre
50 ans plus tard.
Écrit entre, on dira 1941, le premier Caligula, 1959, Les Possédés. C'est un théâtre que l'on joue encore. Ce n'est pas rien. En tout cas, deux pièces ne cessent d'être jouées, Caligula et Les Justes. Mais aujourd'hui, ce sont plutôt des troupes régional, local, voire amateur, qui monte les pièces de Camus. Même si les troupes régionales vont jouer quelques soirs à Paris ou en banlieue parisienne. Donc Camus souffre aujourd'hui d'un déficit du côté des grandes institutions théâtrales. Comédie française, Odéon, théâtre de Nanterre, théâtre d'Aubervilliers, etc. Ce qui s'explique ainsi, les grands metteurs en scène, après 1960, boudent Camus. Après tout, ni Vitesse, ni Chéreau, ni Mesguich, ni Lavaudan n'ont jamais songé à monter la moindre pièce de Camus. Ayant dit cela, il y a quelques réserves à cet argument. La première, c'est que qui crée Caligula, et ça, on l'avait oublié, c'est Giorgio Strehler, à Genève. C'est lui, et c'est pas Paul Oetli, qui crée la pièce, le grand Strehler. Et dès 1950, il monte les Justes à Milan. Il est vrai qu'ensuite, il ne monte plus Camus. Mais quand même, Strehler, c'est un metteur en scène culte des années 1970, 1980, 1990. Il y a le cas de Jean-Louis Barrault, comme le grand metteur en scène de cette génération, qui est la génération de Camus. Jean-Louis Barrault a monté l'état de siège. Alors, ce fut un échec. Un échec cinglant, un four, reconnaît Camus. C'est quand même le grand Jean-Louis Barrault qui avait monté la pièce. Et il aurait aimé monter d'autres pièces de Camus, voire reprendre l'état de siège. Cela ne s'est pas fait. Jean Villard a beaucoup de sympathie pour Camus. Il aimerait avoir de lui une pièce. Ça ne se fait pas, mais bon, malgré tout... Il y a une reconnaissance de Camus par Villard. Et après tout, Gérard Philippe a créé Caligula. Donc, la réponse à votre question est nuancée, elle est balancée. À la fois, il y a une forte présence du théâtre de Camus, mais il manque sans doute quelques spectacles faisant date. Il est important de signaler qu'en 2010, Stanislas Nordet va monter les Justes au Théâtre de la Colline. Avec Stanislas Nordet, on a une grande figure de la mise en scène contemporaine et un spectacle qui sera très médiatisé puisque le rôle de Dora va être confié à Emmanuel Béard. Donc là, Stanislas Nordet, Emmanuel Béard, on a l'impression qu'un verrou va peut-être sauter et que les Justes, pièce plutôt classique de Camus, va entrer au fond, dans le répertoire contemporain. Alors derrière cela, il me semble qu'il y a un fait qui commande l'interprétation. Le théâtre de Camus est pour l'essentiel écrit entre 1941 et 1950. Il précède donc deux grands événements de la scène contemporaine, l'émergence du nouveau théâtre et l'émergence du brechtisme. Camus apparaît aujourd'hui comme Sartre, comme Anouilh, peut-être, comme un auteur de transition. La donne est brutalement changée dans les années 1950 avec les chaises d'Eugène Ionesco, En attendant Godot de Samuel Beckett d'un côté, Mère Courage de Brecht de l'autre. Il est évident que ces deux formes concurrentes de la modernité théâtrale donnent un coup de vieux à tout ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire Giraudoux, Sartre, Camus et beaucoup d'autres. Il est, si l'on veut, le Saint-Jean-Baptiste du nouveau théâtre. Il y a des germes du nouveau théâtre dans Caligula. Il n'y en a pas du tout dans Les Justes. Il y en a dans L'état de siège. Il n'y en a pas dans Le malentendu. Mais il est évident que la donne change et que les metteurs en scène les plus modernes, les plus soucieux d'innovation vont se tourner plutôt vers Brecht ou vers Beckett. Alors, il est à noter que Camus a mal aperçu l'émergence de ces deux phénomènes. Il était assez défavorable à Brecht, comme la Nouvelle Revue Française à laquelle il est lié. Comme son complice Jacques Lemarchand, il est très réticent au brechtisme, d'abord pour des raisons politiques. On sait qu'elle a contribué à faire rejeter un manuscrit de Beckett chez Gallimard, mais c'était un manuscrit romanesque. Il n'a pas d'attirance pour Beckett. Il a tardivement manifesté de la sympathie pour Ionesco, dont il avait vu et aimé Tueur sans gage. Oui. Enfin, il n'a pas eu, à l'égard du nouveau théâtre, Ionesco, Beckett, pour faire bref, disons, la sympathie qu'ont manifesté à ce théâtre Jean Anouilh, Jean Cocteau, par exemple. Vous voyez.
Retrouvez la suite de cet entretien prochainement sur Canal Académie. Merci à Jean-Yves Guérin, camusien et grand coordonnateur du dictionnaire Albert Camus, publié chez Robert Laffont dans la collection Bouquins en décembre 2009, qui a évoqué pour Canal Académie les différents ancrages de Camus, ses origines et sa passion du théâtre dans cette émission. Le deuxième volet de l'émission Parcours, consacré à Camus, en compagnie de Jean-Yves Guérin, aborde Camus et son œuvre dans la Deuxième Guerre mondiale, son roman La Peste, ses choix politiques, le temps des polémiques, la guerre d'Algérie pour Camus et la réception de son œuvre dans le monde. Retrouvez prochainement Jean-Yves Guérin sur Canal Académie.